Vendredi dernier, qu'est-ce que notre frère Bernard nous a parlé? Bernard, tu te souviens? Voilà. C'est comme chacun d'entre nous. On dit, mais c'était bien. Je sais que je me suis fait du bien, mais... Non, je crois que c'était... À moins que ça soit une semaine, comme ça passe vite, ça soit l'autre semaine. Mais notre frère, je me souviens de la dernière, en tout cas la dernière parole... étude qu'on était présent, notre frère nous parlait qu'il nous fallait honorer, sanctifier le nom du Seigneur. Voilà. Alors, c'est vrai que c'était bien, parce que ces quelques temps derniers, de temps en temps, quand l'occasion m'était donnée, je parlais aussi de cette révélation du Seigneur au travers des différents noms. Et il y en a pas mal. Hein. Tout au long de la parole de Dieu, ces noms se révèlent au fur et à mesure. Et de cette manière-là, on connaît le caractère, la personnalité profonde. Dieu se révèle au travers de son nom. Et on comprend quand Moïse disait « Révèle-moi ton nom. Qui tu es? Qui tu es? Je suis, je suis. » Et les parents je crois, Samson, qui voyait l'ange et qui dit « Mais voilà, qu'est-ce que c'est ton nom? Il est merveilleux. » Voilà. Alors, on a cité les noms, comme d'ailleurs notre frère nous a rappelé quelques noms. Jéhovah Nissi, ou du moins Yahvé Nissi, qu'est-ce qu'il y a encore? Roi, Shalom, etc. Nous en avions vu quelques-uns aussi d'une manière un petit peu plus directe. Et pour continuer, toujours dans cette même lancée, vous avez entendu parler de Yahvé Tsabaoth. Hein, Tsabaoth? Non, bon, eh ben, moi non plus, parce que je parle pas l'hébreu tant que ça, mais bon, dans nos recherches, et je vous donne de suite la traduction, l'Éternel des armées. Hein, et l'Éternel des armées. Alors, on va un petit peu parler de cela, de ce nom, connaître mieux le Seigneur sous cet aspect. Donc, on va lire des versets. Vous savez que il y a plus de 270 fois cette référence, l'Éternel des armées, qui est employé dans la Bible. Tsabaoth, pour le terme en hébreu, ça signifie littéralement « immense armée ». Et ça peut aussi traduire « armée céleste ». L'Éternel, le chef, le Tout-Puissant, le commandant, vraiment le général, le suprême, qui dirige les opérations, qui renverse les obstacles et qui impose sa victoire. Sa victoire. Voilà, l'Éternel des armées. Juste deux versets. Dans Ésaïe au chapitre 6, verset 5, il nous est dit pour Ésaïe, c'était l'année de la mort du roi Ozias. Et tout le peuple était dans le désarroi, il ne savait plus comment voir l'avenir, tout était un peu chamboulé. C'était un moment vraiment déstabilisant. Alors, soudain, Dieu se révèle à cet homme, à ce croyant, à cet homme qui cherche sa face. Et une vision lui est donnée, il voit Dieu immense, assis, majestueux et tout-puissant sur son trône. Et au verset 6, il dit ceci. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, plus précisément l'Éternel des armées. J'ai vu et j'en suis tellement... » impressionné. Donc, connaître Dieu sous cet aspect-là, nous époustoufle. Hein. Dans Amos, au chapitre 4, verset 13, il est dit ceci. « Voici celui qui a formé les montagnes, qui crée le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom. » Son nom, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est tellement important quand on réalise que si Dieu est le Dieu qui est tout-puissant, l'Éternel des armées, est présenté sous cet aspect de l'image de l'armée, de combattant, de dirigeant, de savoir, de se positionner dans quel camp on est. Quand je réalise alors que c'est le Seigneur qui est le vainqueur dans tous les combats, j'ai envie de dire, je devrais choisir toujours et toujours d'être dans le camp du Seigneur. Ça, c'est important. Il est important d'être avec lui, de son côté. C'est celui qui alors apportera la différence, la délivrance quand nous sommes au bout du rouleau, quand nous sommes le dos au mur dans les combats de la vie. Voilà. La vie peut être présentée comme un voyage, les illustrations de la vie. La vie peut être présentée sous certains aspects, mais il y a des domaines dans notre cheminement qui ressemblent vraiment à un vrai combat, à un dur combat. Et ça, c'est important quand on voit, on réalise la vie sous cet angle-là, de savoir que j'ai envie d'être dans le combat du bon côté avec le Seigneur. Alors, comme je disais que dans la Bible, il y a au moins 270 fois cette expression « l'Éternel, le Dieu des armées », etc., etc. On ne va pas tous les voir, mais peut-être qu'on va voir quatre situations, quatre histoires que nous connaissons. En fait, la première fois que ce terme a été employé, c'est par qui ? Une petite dame. On ne dirait pas que c'est le meilleur des combattants, une petite dame. C'est la maman de Samuel. On va le voir dans 1 Samuel. C'est la première fois que ce terme a été, entre guillemets, révélé, découvert. Et c'est une petite dame qui dit cela. Qui nous fait connaître le Seigneur sous cet aspect et qui est repris 270 fois après. 1 Samuel chapitre 1er. Il y avait un homme à Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes. L'un dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 6, la rivale. Quand il y a deux dames, dans cette situation, je ne dis pas que... Oh non, je ne veux pas vous faire... Non, pas du tout. Donc, dans cette situation, mais bon, maintenant c'est fini, on n'est plus dans la polygamie. Mais donc, verset 6, Pénina, la rivale d'Anne, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est terrible quand on vous titille comme cela. Vous portez un fardeau, mais on vous titille et on vous dit... en plus, si vous avez la foi, on fait sonner la clochette de l'injustice de Dieu. Parce que peut-être que vous n'êtes pas si bien que cela, peut-être que le Seigneur vous punit, etc. Ou il ne vous aime pas suffisamment. En tout cas, voilà ce qu'elle faisait, Pénina. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, Anne pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Mais Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» On passe au verset 10. Elle se retrouve alors dans le temple, toute seule. Dans l'amertume de l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Quand on parle de combat, on imagine des chars, des tanks, des fusées, toutes ces choses-là. Mais là, on découvre. La première personne qui parle de combat, c'est une dame dans une question de vie, de famille, dans une question émotionnelle qui la tourmente, d'affection, qui s'apparente au quotidien de la vie. Il y a des choses si bénignes. Et pourtant, elle a exprimé devant le Seigneur, c'est un combat, Seigneur. Et je veux maintenant te regarder, te voir comme étant celui qui est impliqué dans ce combat, et je te déclare comme toi, l'Éternel de mon combat et des combats et des armées, Seigneur, viens à mon secours. Nous voulons connaître, dans le combat de nos émotions, de nos afflictions dans le quotidien, dans ce qui déchire nos cœurs, dans nos drames, peut-être dans les foyers, dans les relations où il y a des drames ou des choses comme cela, qu'il y a vraiment, devant Dieu, il comprend que c'est un combat pour nous. Et ce terme, à partir de ce moment-là, a été saisi. Et relevé. Le Seigneur n'a pas dit mot. Moi, je suis le chef des armées, oui, mais ton affaire là, ça ne me concerne pas, c'est rien du tout, débrouille-toi. Non, non, l'Éternel des armées, vois ma souffrance, c'est une lutte, viens à mon secours. La souffrance morale d'Anne, la requête et l'alliance de Anne. Elle fait alliance avec Dieu et dans ce côté particulier de Dieu. L'Éternel des armées, remettre sa cause à celui qui se bat mieux que nous. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que pour nous, pour moi, pour ma famille, pour les miens, pour moi à titre personnel, est-ce que j'ai quelques combats secrets que personne ne connaît, que je peux aller dans le secret de l'intimité? Notre frère, ces derniers temps, nous parle de la nécessité de cette intimité entre Dieu et nous. Est-ce que nous ne pouvons pas, nous aussi, quand personne ne connaît, ne comprend, même si on essaye de dire comme Elkanah, oh, tu sais, c'est rien, c'est pas grave, tu sais, on va... Non, non, voilà. Quand personne ne nous comprend, nous pouvons entrer dans le lieu secret, faire une rencontre avec l'Éternel des armées, lui remettre tout et dire, Seigneur, je vais aller de l'avant, je ne vais pas lâcher, mais je veux t'inviter à être avec moi et je sais qu'on va triompher. Et puis, s'il y a une victoire, eh bien, elle sera pour toi. Hein, vous connaissez, hein, quand elle dit, ben, je t'offrirai Samuel pour ta cause, parce que de toute façon, ça viendra de toi. Moi, c'était impossible. Alléluia. Voilà. Remettre sa cause au Seigneur. Regardez dans Jérémie au chapitre 11, verset 20. Quand Dieu dit ceci, l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. L'Éternel des armées est injuste, qui sonde les cœurs et les reins. Je verrai ta vengeance s'exercer contre mes ennemis, car c'est à toi que je confie ma cause. Voilà ce que elle pourrait en quelque sorte dire. Elle se sentait tellement injuste dans les accusations. Et peut-être que vous passez par des injustices. Mais le Seigneur combat pour nous. Quand on est affligé, donc malheureux, c'est bien de se rappeler que l'Éternel est l'Éternel des armées. Quand on se sent justement dominé par plus fort que nous, est-ce qu'il y a des situations plus fortes que nous, hein? Quelqu'un qui est très fort, très haut, très grand, à qui on peut penser avec devant, face un tout petit. Hein? Voilà, on va regarder dans l'histoire de David. 1 Samuel, chapitre 17. verset 10. Vous savez, Goliath, le Philistin, il avait 3 mètres de haut. Moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Même comme ça, je ne sais pas si ça fait 3 mètres. Bon, 3 mètres de haut. Il avait une cuirasse de 60 kilos. Il faut le faire, hein. Cuirasse de 60 kilos. Son javelot avait la pointe de son javelot de fer, là, de 7 kilos. La pointe, rien que la pointe. 7 kilos. Wow. Voilà. Donc, c'est un défi. Verset 10 du chapitre 17, le Philistin dit encore, oh, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. » Je ne sais pas qui est le chef de l'armée. « Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Elles furent effrayées et saisies d'une grande crainte. Je saute au verset 26. David, petit gars, il arrive, il voit la situation. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Mais que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Verset 32, David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. » Je dis cela avec Martine qui dit toujours, « Je vais continuer à me battre. Hein? » Verset 45, David dit au Philistin, « Tu sais, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, dans le calme, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que cela n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Et aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut dans le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il y a des plus forts que nous. Il y a des batailles qu'on ne peut pas éviter. Et on sait que, humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais on ne tourne pas le dos. On ne tourne pas le dos. David, quand il a vu le Philistin arriver sur le champ, lui aussi. La meilleure défense, c'est quoi ? Amen. C'est l'attaque. Et quand on est dans le bon camp et qu'on est pour la bonne cause, bien sûr. Hein. Non, c'est pas possible. Ce qui est en train de se faire, c'est contre la gloire du Seigneur. C'est son nom qui est bafoué. C'est son peuple qui est méprisé et humilié. Non, je ne peux pas, quoi qu'il arrive, accepter une telle chose. Et je ne peux pas me laisser aller comme cela, ni tourner le dos, ni jeter l'éponge. Je vais à ta rencontre. Ça, c'est important. Il y a des défis qui peuvent nous effrayer, parce que dans ce passage, il nous est dit que Saül, le peuple, était dans la crainte. Il y a des fois des situations qui viennent nous apporter naturellement, charnellement, c'est normal. Tout un vent, un sirocco de crainte qui nous emporte. Mais soudain, si on peut se rappeler qui est le chef de l'armée et que, en fait, nous sommes, nous, du côté du Seigneur, l'armée du Seigneur. Voilà, on ne peut pas insulter le Seigneur. Je ne peux pas laisser le nom du Seigneur laisser être bafoué. Même son frère le dissuade et le méprise, son frère Eliab, en disant, mais petit David, hein, va faire la cuisine, rentre chez toi, hein, va voir les moutons. Mais c'est notre affaire. Mais lui, non. Il s'est détourné de cela, il n'a même pas cherché à répondre, ni à laisser l'amertume de telles moqueries vraiment blessantes, hein, ces moqueries-là. Donc, il s'est détourné et il a dit, moi, je veux aller. Et je veux confronter cet ennemi au nom de l'Éternel des armées. La victoire est pour l'Éternel des armées et au nom de l'Éternel des armées. Et pour David, ce n'est pas Goliath le géant. Le vrai géant, c'est Dieu. Quand David, quand le géant disait, ben vous, au moment où les espions ont vu les géants du pays promis, ils ont dit, on est comme des sauterelles. Mais c'est pas vrai, c'est pas eux les géants. Le géant des géants, hein, et avec qui je veux être, c'est le Seigneur. Moi, ça fait rien si je suis un petit David. Mais si mon compagnon, mon chef, c'est le géant plus grand que Philistin, que le Philistin. Alors il peut être grand, il peut avoir ses 60 kilos de cuirasse, ça ne me fait rien. Parce que moi, j'ai mon géant, mon grand seigneur, mon éternel des armées. Je dis très rapidement quelques vérités qu'on peut saisir de ce passage. Il est une première vérité, il est inévitable que nous devons faire face à des géants dans notre vie, plus grands que nous. Des géants qui nous entraînent dans l'anxiété, la crainte, le doute, l'intimidation. C'est terrible. Mais nous devons mesurer ces géants par rapport à Dieu et non pas par rapport à nous-mêmes ou en comparant avec les autres. Nous ne devons pas chercher à combattre avec les solutions que nous pourrions imaginer ou même que les hommes, dans leur bonne volonté, pourraient nous proposer. Le roi Saül avait proposé sa solution, mais c'était important de voir ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire, et pas obligé de passer par ce que les hommes nous suggèrent. Comme je disais, nous ne devons pas fuir les problèmes, mais nous devons faire face avec l'aide. Avec l'aide du Seigneur, faire face. Alléluia. Je pense que quelque chose aussi, quand on est dans le combat, nous devons verbaliser, confesser, louer le nom du Seigneur. Qu'est-ce que David disait ? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Nous devons faire attention dans les moments de combat où la bataille n'a pas encore abouti à la fin, d'être de ceux qui détruisent notre propre foi par ce que nous confessons de négatif et de démoralisant. Les premières oreilles qui entendent ses propres paroles, ce sont nos oreilles. Et le diable sera tout juste derrière pour dire, ah ben tu vois, t'as raison. Hein, tu vois, non. Mais confessons qui est le Seigneur, louons le Seigneur dans sa grandeur, affermons nos cœurs, affermissons nos cœurs dans ces choses-là. Confessons, verbalisons, confessons à haute voix, avec foi. Dans ce sens, il nous faut aussi, dans le combat, nous souvenir de notre identité. Je suis dans le camp du Seigneur. Je suis dans l'armée d'Israël pour David, qui est l'armée du Seigneur. Donc c'est mon identité. Je ne suis pas un étranger, je me suis donné au Seigneur. Je suis un avec lui quand je suis descendu dans l'eau du baptême. Je lui appartiens, je marche avec lui. Donc mon identité, je suis dans le bon camp, justement, mon identité. Et c'est important, parce que le diable va nous faire douter de tout ça. Il fait douter aussi de l'identité de Dieu. Qui il est, s'il est un tout petit Dieu ? Non. L'identité de Dieu, c'est l'Éternel des armées. Mon identité, c'est que je suis un soldat de son armée. Alléluia. Voilà, c'est important. Alors, deux passages encore. Là, c'est quelqu'un qui est... quand quelque chose est plus fort que nous. Mais quand il y a un tas de choses plus fortes que nous, hein, quand on est dépassé par les événements, c'est important aussi. Il y a un passage dans 2 Rois, chapitre 6. Le roi, chapitre 6, c'est l'histoire, verset 13. Hein, verset 13. C'est l'histoire de ce roi de Syrie qui est en guerre avec Israël. Et au verset 13 jusqu'au verset 17, il est dit, le roi de Syrie dit, « Allez et voyez où est Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, et je le ferai arrêter, je le prendrai. »
On vint lui dire, voici, il est à Dothan, dans telle ville. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Oh, mon Seigneur, comment nous ferons-nous » Et il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Moi, je ne vois pas avec mes yeux visibles. Mais le Seigneur veut qu'avec mes yeux du cœur, mes yeux de la foi, je puisse voir qu'il y a le Seigneur, qu'il y a son armée céleste, ces anges, comme la parole de Dieu nous dit, qui veillent sur nous, qui est au service de l'Église et des croyants. Et ils sont plus nombreux, je vous assure, ils sont plus nombreux que les légions de démons. Mais nous, on ne les voit pas. Et la crainte et les choses comme cela nous fait que nous nous disons, mais l'ennemi est trop fort, il y a trop de choses qui viennent contre moi. Avec Dieu, dit le réformateur Luther, on est dans les 500 ans de la réforme par Luther, avec Dieu, je suis dans la majorité. Un avec Dieu, c'est la majorité. C'est bizarre comme calcul, et je ne sais pas si on fait une élection comme cela dans le monde, ils accepteraient. Mais voilà, c'est les lois de la spirituelle. Un avec Dieu, c'est la majorité. Et moi, je veux être celui-là du côté de la majorité avec Dieu. Un avec Dieu. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 31, si Dieu est avec nous, alors qu'est-ce qui pourrait être contre nous? Alors, vous avez toutes les vicissitudes, les problèmes de la vie dans ce passage, mais si vous êtes avec Dieu, si Dieu est avec vous, si c'est l'Éternel des armées, il n'y a rien à faire. On triomphera. Alléluia. Avec Dieu, c'est la victoire. Vous savez, c'est important que spirituellement, on ait les yeux ouverts, qu'on ne se contente pas simplement de nos yeux physiques. Il y a en Amérique centrale et du Sud, un poisson appelé communément les quatre yeux. Parce que ce poisson d'Amérique, il a deux cornées et deux rétines. C'est très exceptionnel. Et c'est très difficile de l'attraper parce qu'avec ça, avec cette vision particulière double, il a une capacité de voir au-dessus de l'eau. Et l'autre partie en dessous de l'eau. Et c'est particulier, c'est la nature qui fait ça pour favoriser, c'est le Seigneur qui crée la nature. Et voilà. Et quelque part, pour nous, il est important qu'on n'ait pas simplement que le regard de la chair, mais que nous puissions spirituellement, parce que nos cœurs sont plongés dans les promesses de la parole de Dieu, même si nous ne sommes pas des voyants du monde invisible, quelquefois, Dieu peut nous le montrer, mais même s'il ne nous le montre pas spirituellement, je veux dire, les yeux de la foi nous font voir le monde invisible. Et dans le monde invisible, Dieu est tellement actif pour nous. Je peux me reposer là-dessus. Il est l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Seigneur, c'est ce que le Seigneur dit dans Éphésiens, on ne va pas lire tous ces versets, mais Éphésiens nous dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, contre la puissance des démons, mais non plus nous tout seuls contre la puissance des démons. Voilà, on va sauter quelques versets que j'avais marqués pour aller à au dernier passage de l'histoire. Je vous ai cité l'histoire de Anne, je vous ai parlé du serviteur d'Élisée,
Je vous ai parlé aussi de l'autre histoire qui est l'histoire de David et de Goliath. Et maintenant, pour terminer, on regarde dans Agé, au chapitre 1er, petit prophète. C'est l'histoire du peuple de Dieu à son retour de captivité en Israël. C'était plus qu'une petite poignée, une poignée toute misérable, qui a été tellement, le peuple d'Israël a été tellement bousculé, secoué dans les nations, et puis maintenant ils reviennent d'un tout petit poignée. Alors, au verset 4, nous voyons que ces gens qui sont revenus, finalement, ils se sont battus chacun pour essayer de reconquérir la vie, et matériellement particulièrement. Et ça ne marchait pas si bien que ça dans leur défi. Alors Dieu se révèle par le prophète et lui dit ceci. Est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures lambrissées quand cette maison, parlant du temple qui n'était pas restauré, quand cette maison est encore détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai alors de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes. Et surtout le travail des mains. Un petit peu plus loin, vous connaissez très bien ce passage de Malachie, chapitre 3, quand le Seigneur dit, alors, verset 10, « Donc maintenant, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureuses, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Seigneur dit par ce passage, écoutez, vous vous battez, pour réussir, vous vous battez pour avoir une bonne vie. C'est un combat pour votre vie. Mais si vous me négligez, eh bien, vous n'y arriverez pas. Ça ne marchera pas. Parce que vous n'avez pas les bonnes priorités. Si vous me mettez en priorité, alors, moi, l'Éternel des armées, je me battrai. J'en serai glorifié d'abord, mais je me battrai pour ce dont vous avez besoin. C'est une promesse pour moi. C'est une grande promesse. Qui n'a pas de besoin au milieu de nous, dans un domaine ou dans un autre? Qui ne voit pas cela comme un combat dans la vie? Oui, c'est un combat. Mais si je fonce tête baissée, si je néglige le Seigneur, si je mets le Seigneur en second, eh ben, quoi qu'il en soit, je serai toujours perdant. Mais si soudain je dis, bon, je m'occupe des affaires de Dieu, cherchez premièrement le Seigneur, et qu'est-ce qu'il fait? Je me battrai pour vos affaires. Voilà l'Éternel des armées. Et puis je termine en disant que vous savez, les noms que mon frère Bernard, notre frère Bernard, nous a cités, où j'ai aussi quelquefois cité les noms de Dieu, la révélation de Dieu au fur et à mesure qui nous découvre toutes les belles facettes de ce Dieu magnifique qui est le nôtre. Eh bien, le summum de ce Dieu, le summum de sa révélation, qui est Dieu ? C'est le Seigneur Jésus lui-même, Emmanuel, Dieu avec nous. Et toutes ces qualités du nom composé de Dieu révélé tout au long de la Bible se trouvent dans le sommet, dans le paroxysme des choses révélées en la personne de Jésus. Et quand on prononce le nom de Jésus, eh bien, il y a ces diverses qualités, l'Éternel ma paix, l'Éternel ma justice, l'Éternel ma bannière, etc. Et l'Éternel qui combat pour moi. Et donc, qui est mon chef, il est le chef de l'Église, il est mon chef. Et quand on voit dans Apocalypse, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un ange, un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle qui ? Fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë qui, pour frapper les nations, il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alléluia. L'Éternel des armées, quand je prononce cela, je prononce le nom de Jésus. Alléluia, il est véritablement le chef, alléluia. Et pour complètement terminer, prenez le psaume 22, psaume 23 et psaume 24, trois psaumes formidables. Le psaume 22, prophétique, nous parle de la souffrance de Jésus, nous décrit en détail les souffrances de Jésus. Le psaume 23 nous parle de cette marche en relation du berger Jésus, qui après ce qu'il a fait pour nous dans le 22, est le berger et moi, je suis sa petite brebis qu'il aime. Et le psaume 24 nous dit ceci, plusieurs versets, mais je prends à partir du verset 7, nous montre Jésus, l'Éternel des armées, le roi. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats, n'importe quel combat. Hein. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alors, dans tout cela, dans tout ce que je vis, dans la petitesse, peut-être semblerait-il, de ma petite vie du quotidien à la manière de Anne, hein, ou dans les grands combats comme David contre Goliath, etc., ou devant la pression comme ces menaces de l'armée syrienne, ou devant les domaines de la construction de ma vie matérielle, etc., sociétale, comme ces Israélites, dans toutes ces choses, eh bien, je dis, Seigneur, tu es l'Éternel qui combat dans la vie, pour moi, et moi je veux être avec toi. Alléluia, que Dieu nous aide, et la Bible dit, portez, levez vos linteaux, laissez-le rentrer. Moi je veux élever les portes de mon cœur, et je dis, Seigneur Jésus, éternel, mon capitaine, le capitaine de mon salut, ô Seigneur, entre dans ma vie, règne toujours et donne les ordres. En tant que chef suprême, donne les ordres. Et je dirai, oui, mon capitaine. Amen.